Oh ben, il me reste que 3 lettres, mais je vois pas ce que je peux faire avec.
C'est quoi tes lettres?
J-A-T.
Je sais. Agité du local.
Ça fait du bruit, la colère. Si elle est silencieuse, elle risque de ne jamais se digérer. Il faut la dire, taper du poing sur la table, crier, défiler. Savoir se faire entendre, ça s'apprend bien quelque part. Et où est-ce que l'on apprend à écouter, à pas seulement se tourner sur soi-même, mais se dire qu'il se passe des choses aussi pour les uns et les autres. Se rapprocher pour ne pas voir ça seulement de loin. Se rapprocher pour tendre l'oreille, tendre la main, aux plus âgés et aux plus jeunes par exemple. S'il y a bien quelqu'un qui a tendu son oreille, ouvert ses yeux et tendu la main, c'est mon invitée d'aujourd'hui, Solène Briquet de la compagnie La Magouille, qui s'est intéressée à la jeunesse d'aujourd'hui. Elle a été échangée, questionnée, elle a voulu comprendre et en parler ensuite dans ce nouveau spectacle « Sauver le monde, pas de problème » en cours de création et elle va nous en parler dans quelques instants. Bienvenue amis auditeurice, bienvenue Lucie dans cette première agitée du local de l'année 2024.
Bonjour.
Alors Lucie, pour cette première semaine de l'année, tu as choisi de nous parler des temps forts de l'année 2023 et de ce qui nous attend ensuite cette année 2024. Mais pour aujourd'hui, c'est l'année 2023, je crois.
Tout à fait. C'était dur de faire un résumé parce qu'il s'en est passé des choses en France et dans le monde en 2023, chers auditeuristes. Alors on va commencer par le début. La réforme des retraites est passée en force en avril 2023, après plusieurs mois de débats et de protestations, et elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. D'ailleurs, pour cette réforme, notre première ministre Elisabeth Borne a eu recours 11 fois au 49.3 d'après le Midi Libre et le 20 minutes. Tant qu'on est sur le sujet des projets de loi controversés, pour terminer l'année cette fois, c'est la loi immigration qui a été votée en décembre. Elle a valu au Rassemblement national de se féliciter d'une victoire idéologique. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement nouveau, mais c'est de plus en plus exacerbé. Les groupes d'extrême droite ont été particulièrement actifs cette année en France. Ils ont notamment fait des liens entre des faits comme le meurtre du jeune Thomas en novembre à Crépol et les circonstances de l'immigration. Suite à une manifestation d'ultra-droite le 26 novembre 2023 à Laval, la Ligue des droits de l'homme 53 avait d'ailleurs publié un communiqué, co-signé par différents syndicats, pour alerter sur la montée d'un racisme qu'ils trouvent inquiétant. Dans la thématique politique toujours, il y a également eu la COP28 qui s'est tenue à Dubaï en décembre également et qui a vu la signature d'un texte appelant à une transition hors des énergies fossiles. Certains considèrent que c'est une victoire historique, d'autres que c'est pure communication.
Il y a encore un sacré chemin à faire.
Oui, et sans trop tarder d'ailleurs, parce que si jamais ça vous a échappé, 2023 c'est aussi une année de records météo. Les canicules, les sécheresses, les tempêtes, la pluie, bref. Plein d'événements dignes d'un Guinness dont on se serait bien passé, comme la spectaculaire tempête Ciaran ou Ciaran, qui a avoisiné les 200 km/h sur les côtes bretonnes, et son petit frère Domingos survenu quelques jours après, ou encore après ça, les crues historiques dans le nord de la France, qui ont d'ailleurs classé plus de 240 communes de l'Hexagone en catastrophe climatique. Bon, et comme c'était pas assez, en parallèle, la Mayotte, département d'outre-mer, vit depuis le début de l'année 2023 une très grave crise de l'eau, avec des coupures qui se sont intensifiées en septembre. L'accès à l'eau potable est disponible seulement un jour sur trois, et depuis novembre, l'État a commencé à fournir chaque jour 300 000 litres d'eau potable en bouteille à la population. De notre côté, c'est bien évidemment beaucoup moins grave, mais des pénuries, on en a eu aussi, notamment une forte pénurie de carburant qui a touché tout l'Ouest et en particulier les Pays de la Loire, suite aux grèves de la raffinerie de Donge, qui était pour protester contre la réforme des retraites. Bon allez, ça suffit les nouvelles lourdes pour aujourd'hui, je garde le reste pour le reste de la semaine et je vous propose, pour terminer ces brèves, un retour sur quelques actus qui m'ont fait sourire ou qui m'ont fait du bien à lire. Début décembre 2023, pour commencer, un Dark Vador a parcouru 25 km à pied entre le département de l'Orne, notre voisin, et le nôtre. Ce Dark Vador, c'était en fait Alan Towers, un Anglais qui réside dans l'Orne et qui avait marché entre La Celle-les-Châteaux et La Ferté-Massé dans l'Orne. Son objectif était de récolter des fonds via une cagnotte pour aider un couple du Nord-Mayenne dont la maison avait été détruite dans un incendie. Un autre personnage qui a voulu parcourir des chemins pour récolter les fonds, c'est Moussa Haddad, président de l'association franco-syrienne Les Amis de Tamam, à Laval. Et lui, son objectif, c'était de faire un tour de France à vélo pour récolter des fonds dans le but d'aider les victimes du séisme qui a eu lieu en Syrie en février 2023 et fait plus de 6 000 morts à travers le pays. Petite parenthèse, ce séisme avait également gravement touché la Turquie. La Turquie avait compté plus de 50 000 morts de son côté. En tout cas, c'est un beau parcours qu'avait fait Moussa Haddad, puisqu'il a bouclé le 7 août plus de 6 000 km de parcours et récolté plusieurs milliers d'euros. Bon, et allez, une dernière pour la route, celle-là c'est une de mes pépites. En janvier 2023, trois hommes ont tenté de cambrioler un magasin de téléphone à Saint-Berthevin et pas de chance, les alarmes se sont déclenchées et l'un d'eux s'est trouvé bloqué à l'intérieur du magasin, enfermé par le rideau qui s'est fermé suite à l'alarme et les deux complices qui avaient pris la suite ont été arrêtés un peu plus tard.
Comme quoi le karma ne pardonne pas. Bonjour Solène Briquet, vous faites partie de la compagnie La Magouille. Vous étiez en résidence à l'espace Comam à Laval avec le Théâtre de Laval pour le spectacle que vous mettez en scène, la pièce « Sauver le monde, pas de problème ».
Oui, tout à fait. Bonjour. On est en train de préparer un spectacle sur la question de l'engagement chez les jeunes aujourd'hui, qui est dans l'idée en fait que ça joue dans l'espace public ou dans les cours de lycée pour la jeunesse et pour le tout public sur avec un mélange en fait des genres parce que nous notre langage à la Magouille c'est à la fois le mélange du théâtre, du jeu d'acteur en dialogue avec la marionnette.
Et donc, en fait, cet outil de la marionnette permet peut-être une plus grande liberté de mise en scène aussi au niveau de l'imaginaire, j'imagine.
C'est vrai que du coup, dans ce qu'on cherche, en fait, sur chaque spectacle, on cherche un peu un nouveau langage au niveau de la marionnette en fonction du sens que ça va pouvoir apporter. Et là, donc, ça peut, de manière générale, aller vers des usages assez poétiques, mais aussi de voir aussi dans la prise, la manipulation, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire sens là-dedans. Et là, pour ce spectacle-là, on s'est tourné sur tout ce qui fait pression chez les jeunes en fait sur la jeunesse aujourd'hui et on a décidé de que la marionnette en fait
avec cette place peut-être de domination, c'est...
Ouais, c'est ça, qu'elles permettent en fait d'illustrer, de rendre concret en fait ce qui fait pression sur les jeunes. Et du coup, on a par exemple une grosse tête de conférencier qui va venir nous raconter la question des jeunes générations aujourd'hui et qui va essayer de nous raconter en fait comment garder un jeune dans sa petite entreprise, comment les stimuler, les garder dans sa petite entreprise et en fait comment les diriger en fait, comment mieux les manager aujourd'hui. Donc là, on flirte un peu avec le langage du masque. Du coup, on a une grosse tête géante d'un mètre de diamètre sculptée en mousse d'un espèce de patriarche qui pense qu'il a un peu tout compris et qui est inspirée d'une vraie conférence qu'on a vue en fait du côté de chez Bouygues pour les managers de Bouygues. Et puis on a aussi dans ce qui fait pression, parce qu'en fait, c'est un spectacle qu'on a écrit, c'est en commande d'écriture avec Julie Aminte, une autrice de théâtre avec qui on a déjà collaboré. Et en fait, dans les rencontres qu'on a menées auprès de jeunes de différents milieux, on a aussi repéré dans les interviews qu'il y a toute la question des parents, une pression à cet endroit-là où le regard en fait, sur les jeunes, il est de la part des adultes, il est souvent que les jeunes restent assis dans leur canapé avec un téléphone collé à la paume et que en fait, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux et qu'ils ne se bougent pas trop. Donc une espèce de pression comme ça des parents, du monde des adultes et une attente en fait, qui est là où on leur demande un peu de venir pour sauver le monde, en fait, de se bouger, quoi.
Et justement, je me demandais, ce travail en amont que vous avez pu faire, peut-être qui est aussi déclencheur, qui vous a donné vraiment envie de parler de cette thématique-là. Donc vous êtes allé vers des jeunes, chercher des témoignages peut-être au début?
Ouais, on a passé, par exemple, à un moment donné, on a été pendant une semaine à Flers. On a rencontré des lycéens, avec eux on a fait des interviews assez longues, des ateliers d'écriture. Du coup, il y a des bribes de texte en fait, qui sont vraiment issues de leurs paroles et de ce qu'on a collecté avec eux dans les exercices d'écriture et des interviews. On a fait ça aussi avec des étudiants de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Et par ailleurs, en fait, Julie, elle travaille avec une autre compagnie où ils mènent un peu ce qu'ils appellent des conjurations avec Samuel Gallet, qui a un auteur dramatique aussi du collectif Escandard, et en fait il rencontre énormément de monde, de différents milieux, de différentes générations, et donc elle collecte aussi beaucoup à cet endroit-là, donc ça nourrit aussi le travail qu'on fait ensemble.
Et cette pression, ce climat pressurisant, est-ce que votre génération l'a aussi ressenti étant jeune?
En tout cas, moi à mon âge, donc j'ai 40 ans là, tout juste, et en fait, je pense que moi, ce que ça reconvoque, c'est l'élan en fait de la jeunesse. Enfin, c'est d'aller puiser là-dedans. Après, l'envie qu'on a avec Julie à Mainte, justement, c'est pas de plaquer en fait nous ce qu'on a vécu, mais d'être vraiment au service de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment, voilà, d'essayer de comprendre en fait comment ça se situe. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est vraiment dans les générations Z, génération Y, on est, enfin, de ce qu'on a compris, hein, on prétend pas en fait tout savoir, mais de ce qu'on collecte, c'est vraiment cet endroit-là de la conscience en fait que le monde va mal. Enfin, je pense que moi, il y a 20 ans, on n'était pas au même endroit. Enfin, il y avait peut-être des envies de révolte, etc. Mais qu'aujourd'hui, il y a cette pression au niveau écologique. Il y a énormément de jeunes dans le collectage de paroles qui nous confient que, bah voilà. Enfin, de toute façon, le monde va dans une direction sombre et que c'est difficile en fait de trouver un peu la lueur d'espoir par rapport à ça, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a collecté, de ce qui leur fait pression, de ce qui les angoisse, ce qui les révolte, etc. C'est l'envie à travers ce spectacle de traverser ensemble, de proposer en fait un moment collectif pour donner l'envie, l'élan d'agir ensemble, de trouver le plaisir du collectif, le plaisir d'être ensemble, et qu'en fait c'est par là que ça peut donner une sorte de motivation, d'essayer de on n'est pas dans cet endroit de la convergence des luttes, en tout cas de faire sentir ça, que plutôt que de rester seul en fait dans cette déprime, le fait de se rassembler, de faire du lien
même entre les autres générations qui peuvent aussi se trouver dans votre public.
C'est vrai que dans ce qu'on a vu, on a fait une lecture il n'y a pas très longtemps justement de la pièce dans sa globalité auprès de collégiens, des troisièmes, et donc il y avait aussi des profs, et là dans ce qu'on a entendu dans les retours à la fin, c'est que les jeunes se sentaient en tout cas pris en compte. On voyait aussi de la part des jeunes filles que voilà, il y avait il y a des choses qui sont glissées à cet endroit-là, où ça leur donne une place aussi, et où on sent que c'est agréable et rassurant, enfin que ça, quand même, ça fait plaisir. Qu'il y a énormément de messages qui passent à travers la pièce, parce que aussi il y a beaucoup d'humour dans l'écriture de Julie, et que ça, c'est un mot qui est beaucoup ressorti de la part des jeunes, mais aussi de la part des profs en fait, où ils nous racontaient qu'à la fois ça leur permet de comprendre mieux ce que vit la jeunesse aujourd'hui, et en même temps les ramène à eux, leur jeunesse et leurs élans de cette époque-là, mais ouais, d'être mieux en conscience en fait de comment ça se passe pour eux, et de peut-être aussi réussir à se resituer en tant qu'adulte par rapport à ça, et de faire cœur ensemble, d'être plus en lien les uns avec les autres.
Et l'humour, c'est peut-être aussi un des meilleurs moyens d'atteindre le plus large public, parce qu'on a besoin, je pense, en ce moment aussi d'aborder ces thématiques. Évidemment, c'est essentiel, mais pas sous un ton un peu lourd ou moralisateur, encore moins. L'humour, ça permet justement peut-être d'y accéder plus facilement et d'y aller sereinement, on va dire.
Nous, on avait vraiment envie que ce spectacle soit joyeux, en fait, qu'on arrive à faire en sorte de passer des messages, mais que ce qu'il en ressorte, c'est une histoire de joie, de lumière au bout du tunnel, et j'ai l'impression que c'est aussi par là qu'on arrive à trouver un élan tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que cette pièce, elle est vraiment... par ailleurs, en fait, sur d'autres projets qu'on a montés avec la compagnie, ça a été des sujets... On a beaucoup travaillé sur la question de la sensualité en EHPAD, donc dans les espaces gériatriques, en ayant rencontré beaucoup de monde. Donc c'est des sujets un peu plus... qui paraissent un peu plus glauques, néanmoins qui ne le sont pas dans la façon dont on l'aborde, parce qu'il y a cette écriture de Julie qui est sensible et avec de l'humour, et c'est vrai que là on est vraiment sur cet endroit de ce mouvement des nouveaux récits, enfin en tout cas moi c'est ce que je sens, le besoin de se raconter en fait des récits, d'aller vers l'éloge des fins heureuses, enfin un peu ces mouvements là pour se donner du sens. Enfin, je pense qu'on en a un peu ras-le-bol de la noirceur, l'ambiance de la société est quand même assez morose, et donc c'est le besoin d'aller vers d'autres choses, quoi.
Pas juste dresser un constat d'une situation qui est complexe, mais déjà la nuancer et en plus de ça, en sortir avec de l'élan et quelque chose de léger aussi en nous.
Ouais, et c'est vrai que du coup, dans le projet, on a sur la... Après, je ne veux pas tout spoiler, mais il y a ce truc-là de progressivement, en fait, aussi réussir à montrer une jeunesse qui est engagée. Donc, il y a une scène, en fait, sur la fin du projet où en fait, donc, il y a Z, une jeune qui s'appelle Z, et qui est là, et en fait, ça y est, elle a un projet. Et donc, son projet, c'est quoi ? Je vais pirater Internet. Ouais. Attends, pas tout Internet, c'est énorme, ça prendrait des siècles. Ouais, alors concentre-toi sur une target. Ok, je sais, Maëva Guénam. Et en fait, elle va s'occuper d'une influenceuse et nous proposer en fait de transposer les profils de ces influenceurs influenceuses sur d'autres paysages plutôt que de les voir sur un jet ski à Dubaï, de les transposer dans un potager collectif, ça pourrait être sur un plutôt qu'un jet ski, un char à voile, en lutte contre les méga bassines, en fait d'utiliser ces endroits de la jeunesse, un endroit où ils sont présents, c'est aussi un espace public. L'envie qu'on avait dans ce projet-là, c'est de montrer que ça peut être fun, en fait, la résilience, que ça peut, d'aller contrecarrer un peu cette image que c'est cool d'avoir un gros cigare et un whisky et d'être blindé de thunes, mais en fait de montrer que ça peut être aussi super d'être à d'autres endroits et que par cette image des influenceurs influenceuses, que ça peut être une piste, en fait, et d'utiliser leurs moyens, enfin ces moyens-là de la jeunesse actuelle.
C'est réinventer un peu l'imaginaire collectif par le biais d'actions militantes. On continue dans quelques instants à parler de votre pièce « Sauver le monde, pas de problème ». On fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après « On lâche rien » de HK et les Saltimbanques, une chanson de 2011 que l'on a réentendue plus récemment, qui fait écho à ce que vous racontez dans votre pièce.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien,
On est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Aujourd'hui, on est en studio avec Solène Briquet de la compagnie La Magouille qui était en résidence avec le Théâtre de Laval à l'espace Comam pendant une semaine. Pour la phase de création et de mise en scène de votre spectacle Sauver le monde, pas de problème. On le disait, un spectacle qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui, des questions d'engagement citoyen, même de militantisme. Et donc ce projet, vous le présentez à des publics à Laval, des lycéens ici. C'est un moment très important pour vous, cette première confrontation avec le public.
On vient de recevoir le texte dans sa version complète. Du coup, on expérimente, c'était un peu Noël en début de résidence. On a reçu des nouveaux objets qui ont été construits par la scénographe. On avance sur des prototypes de marionnettes, etc. Comme la thématique, c'est sur la question de l'engagement, en fait, il y a toute une partie où on incite le public à se positionner, en fait, à participer sur certains moments et de voir, toujours dans cette idée de chercher un élan tous ensemble et de trouver des moments qui font sens et qui permettent de se rassembler. À travers ce projet-là, on a à chaque fois qu'on part en résidence des moments de rencontre avec du public et pour nous, c'est l'occasion de tester ces moments participatifs qu'on écrit, donc qui ne sont pas écrits dans le texte par Julie, mais qui sont écrits dans la mise en scène et donc qu'on cherche avec les comédiennes. Et c'est très difficile de répéter ça sans public, donc on s'en parle beaucoup, on essaye de en amont de
envisager les possibilités de propositions du public peut-être.
Ouais, c'est ça, il y en a une qui dit ok, là moi je vais faire ceci, cela, l'autre, donc il y a un batteur, il y a deux comédiennes marionnettistes et un batteur qui sont en jeu avec le public et donc on se met d'accord sur une espèce de partition avec plus ou moins de textes pour proposer aux gens de se mettre en mouvement avec nous. On a trois classes de lycéens qui viennent de différents lycées qui vont être là. Donc pour nous, ça va être la première fois qu'on va être confronté qu'à un public de lycéens pour tester ça. Donc ça va être super de voir aussi les réactions. Enfin, il y a des choses qu'on a déjà un peu expérimentées quand on a rencontré les jeunes, quand on a collecté un peu les paroles, etc. On a vu, on a testé aussi avec du tout public. On était sur le festival Chalon dans la rue l'été dernier, donc on a déjà testé pas mal de choses. Mais là, on a encore des nouvelles chose et de voir juste aussi avec un public de lycéens comment ça réagit. Pour nous, c'est hyper important.
Et donc ce temps-là, sur les différentes présentations que vous avez faites, c'est l'occasion de repenser des choses dans la mise en scène sans doute.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment de voir, ok, ça passe ou ça casse. Ou des fois, on y va à gros coups de truelle, en mode, vas-y, là, on est caricatural, on va tester est-ce que ça fonctionne. Et puis du coup, petit à petit, on essaye d'affiner. Ou en fait, on se rend compte que bah, direct, ça fonctionne. On aime bien l'atmosphère que ça crée. C'est comme ça que ça s'écrit et que ça se valide. Après, il y a un endroit qu'on ne peut pas répéter, c'est quand on va jouer l'été en mode festival de rue, où là, ça va être 40 degrés. Le public va être en train de chercher l'ombre, est-ce qu'il va bien vouloir se positionner à l'endroit où ça joue. Il y a de l'inconnu qu'on ne peut pas répéter, voilà, qui est le spectacle vivant.
Parce que l'objectif public est du coup de pouvoir le jouer, d'être très souple au niveau de... Ou alors il est prévu pour l'extérieur ce spectacle ?
Ouais, c'est ça, c'est un spectacle qui joue qu'en extérieur pour jouer dans les cours de lycée et en festival ou enfin à l'occasion d'un événement, mais en extérieur sur une place publique ou un parking, un endroit qui fait un peu point de rassemblement. Où on peut débouler comme ça, puis réfléchir ensemble à c'est quoi l'action qu'on aimerait mener pour peut-être transformer les choses.
C'est là où c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que le choix du lieu, le choix de la mise en scène, évidemment, impose des choses, mais le choix du lieu aussi, c'est comment on rend accessible justement ce travail artistique, cette proposition. C'est vrai qu'en se positionnant directement en extérieur aussi, on atteint un autre public peut-être.
Ouais, c'était l'envie. Il y a vraiment cette question de sens qui nous traverse, nous, ces dernières années. C'est vrai qu'avec la Magouille, en général, on fait des spectacles plutôt pour la salle. Et là, il y a un profond désir de recréer du lien, en fait, avec les gens, d'aller chercher par rapport à cette situation actuelle, où la jeunesse est fortement pointée du doigt. On l'a vu sur les élections en 21, en 22, puis à différents moments. Et en fait, dès qu'on se met à agir, qu'il y a des grosses actions coup de poing, en fait, finalement, on leur dit fermez vos gueules. Ça va jamais. Et c'est vrai que le discours ambiant sur la jeunesse, il est pénible, en fait. Et nous, on aime bien, en fait, remettre un peu en valoriser, en fait, de redonner cette parole une place importante à cet endroit-là.
Le rôle de l'artiste pour vous, c'est de s'engager, justement, de prendre position sur toutes ces choses-là. Ça fait partie du monde, l'artiste, il peut pas être totalement extérieur.
Ouais, alors, il y a ça. Je crois qu'en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est en tout cas dans cette collaboration qu'on mène avec Julie à Mainte, on est assez raccord à cet endroit-là. C'est la question de la valorisation, en fait, de mettre en avant des paroles qui sont peut-être peu entendues ou en tout cas sur lesquelles on aurait un a priori assez fort, et de faire réentendre une finesse à cet endroit-là, une sensibilité. Et surtout de mettre en avant la beauté de la jeunesse en l'occurrence, par exemple,
d'amener plus peut-être à avoir un nouveau regard, à se poser des questions plutôt que vous apporter une vérité qui finalement n'est jamais
ouais c'est ça. Après, c'est vrai que là, sur ce projet-là, on a quand même fait un choix de positionnement
Oui,
au niveau du
totalement
sens, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Avant de terminer cet entretien, je propose d'écouter ensemble un extrait de la pièce.
Ouais. Non mais bien sûr que je m'inquiète. Non mais la guerre à nos portes, l'inflation, la canicule, les virus, extrême droite, Fukushima, la retraite. Non mais faudrait que je vive où pour que ça me passe au-dessus, tu vois? Faudrait que je vive où Moi je fais de l'eczéma là, je me bouffe les cuticules jusqu'au sang, je peux plus allumer la télé, le corps il bloblote. Trouble anxieux, elle a dit la médecin, ouais, la médecin elle a dit Xanax, alors j'ai dit à la médecin, mais non, ça va, je gère, je vais pas me shooter la tête alors que bah, j'ai un boulot quoi, un crédit. Des factures, puis bah une ado à la maison, mais que j'adore, hein. Je l'adore, mais bordel! Mais c'est quoi cette vie qu'elle mène? Es-tu dans le réel? Est-ce que tu es dans le réel? Est-ce que tu vois le réel sans un filtre avec des oreilles de chien? Non mais enfin, on dirait un mauvais sketch, quoi. Est-ce que tu le vois, Marielle? Est-ce que tu le vois? Moi, je t'adore. T'es mon ado. Et on sait tous que l'adolescence est une période claquée au sol, hein, et que ça prend tout mal, tout à cœur, tout de travers, une vraie période de merde. Hein. Mais t'es mon ado. Et je t'adore. Je suis empathique. Moi, je dis... Mais oui. Oh, ma pauvre. Mais bien sûr, mais oui. Et je te prendrai même dans mes bras si t'acceptais encore qu'on t'approche à moins d'un mètre. Je te serrerai comme ça, fort, comme ça. Et je te dirai, mais ça va très bien se passer. T'inquiète. Souffle. Et je me mordrai la langue. Je me la mastiquerai, tu vois. Et je m'empêcherai de te hurler, je m'en cogne. Sors-toi les doigts, va sauver le monde.
T'as pas capté que tout est en train de partir.
T'as pas capté que tout est en train de partir en vrille, espèce de con. Non mais allez quoi, au nom de mon périnée là, que t'as défoncé sans vergogne, innove, combat, décroisse, renverse, répare, lutte, change, efface, corrige, transforme, sors-toi des doigts, tu dois sauver ta mère, sauve-moi.
Merci d'avoir été avec nous, Solène, de nous avoir présenté votre travail. Ça nous permet aussi d'entrer dans les coulisses de ce qu'il se passe artistiquement par chez nous, du soutien qu'apportent nos théâtres, nos scènes aux artistes, aux compagnies. On l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, un soutien essentiel à la création. Encore merci, Solène.
Merci.
Sans eux, ça ne serait pas pareil. Pour cette nouvelle année, on est content de vous retrouver, amis auditeuristes. Mais je peux le dire quand même, je suis aussi très heureuse de retrouver notre belle équipe de chroniqueurs qui apportent chacun des chroniques exceptionnelles dans cette émission. Un grand merci à chacun d'entre eux. Et cette toute première chronique de l'année, c'est celle de Donatien qui nous parle aujourd'hui de secrets. Donatien, c'est à toi.
L'histoire ne passionne pas Donatien, quoique certains secrets d'histoire, quand ils sont dévoilés, titillent sa curiosité. Voici pour Donatien le tiercé dans l'ordre des secrets bien gardés. L'existence de la fille cachée de François Mitterrand. La disparition de l'avocat Maître Vergès entre 1970 et 1978. Et l'identité des responsables de l'assassinat de John Kennedy. En 2024, on fêtera les 50 ans de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est un secret pour personne. Alors, Donatien a préféré remonter le temps pour nous révéler un secret qui devrait permettre à tous de bien démarrer l'année 2024. Après de nombreuses heures passées au sous-sol dans les archives de la bibliothèque, Donatien est en mesure aujourd'hui de dissiper un énorme malentendu qui remonte au tout début de notre ère, l'existence d'un quatrième roi mage, du moins au départ de ce qu'on appellerait aujourd'hui un trek dans le désert. Rappelons-nous, immortalisé par Giotto, Fra Angelico, Botticelli ou Léonard de Vinci, les célèbres Melchior, Gaspard et Balthazar. Guidés par une étoile, ces trois-là apportèrent jusqu'à Bethléem la myrrhe, l'or et l'encens, respectant 2000 ans avant Colissimo les délais impartis pour une livraison à domicile. Salomon, en revanche, le quatrième roi mage, n'arriva jamais à Bethléem. Pour quelle raison ? A-t-il été victime d'un accident ? S'est-il perdu ? A-t-il été enlevé ou assassiné ? Et qui donc pouvait bien lui en vouloir ? Il est trop tard pour recueillir des témoignages vivants. Mais grâce aux registres rédigés en farsi, puisque les mages venaient de Perse, Donatien, avec l'aide d'une interprète, a pu reconstituer le récit du voyage de Salomon, le quatrième roi mage. Tandis que Melchior, Balthazar et Gaspard à dos de dromadaire se fiaient à la bonne étoile du berger, Salomon avait délaissé ce camélidé à l'unique bosse pour un chameau hybride dont l'autonomie, malgré ses deux bosses, se révéla un peu faible. En outre, Salomon s'était procuré un GPS censé lui indiquer d'une voix assez directive les ronds-points et les sorties à prendre. Or, c'est attesté par les cartes très anciennes et jamais mises à jour, il n'y avait pas de rond-point sur la route conduisant à Bethléem. Le GPS, condamné au silence, se montra incapable de guider notre mage. Le brave Salomon était désorienté. Équipé d'une montre connectée pour compter ses pas, il tourna 20 jours en rond, revint sur ses pas déjà comptabilisés et échoua dans sa mission, apporter à l'enfant nouveau-né un jeune plant d'olivier. Fin de l'histoire. Jamais la colombe ne pourrait se poser. Cette année, pour ne pas perdre le nord sur les cartes de vœux, Donatien formule une invitation à se contenter d'une simple boussole, ou mieux peut-être, à suivre sa bonne étoile.
De bon matin, j'ai rencontré le train de trois rangs qui allaient en voyage. J'ai rencontré le train de trois rangs qui allaient en voyage. Oh.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. À 19h, vous écouterez les rendez-vous de l'APES.
Et pour cette première émission de l'année, Gianina reçoit Annabelle, à l'origine du collectif qui a initié le 6x4 et qui nous parle du projet ressourcerie textile au Petit Rouet, un projet accompagné par Maïdé.
Et à 21h, c'est Frères de Chaussures qui arrive sur les ondes de l'autre radio.
Bon, vous connaissez maintenant, et si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est une erreur. Pour faire rapide, c'est une émission de rap animée par Fatshu.
Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute. On se retrouve demain à la même heure, 12h15, pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, vous le savez bien, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.